Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'enfants nés cette année se prénomment Raymond, Morissette ou Jean-Pierre. Et si c'était le cas, pas sûr qu'ils apprécient leur prénom dans quelques années. Le prénom est l'un des éléments constitutifs de notre identité et il peut arriver qu'il ne nous plaise pas pour diverses raisons que nous expliquerons ce matin. Pour sa sonorité, parce qu'il indique de façon visible nos origines sociales, ethniques, religieuses, pour accompagner une transidentité ou parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas la tête de son prénom. Nous verrons comment changer, ce qu'est le prénom d'usage quand on ne souhaite pas changer d'état civil, comment un prénom devient à la mode et comment il se démode, quels sont d'ailleurs les prénoms en vogue en 2022 et comment les parents le choisissent entre négociation, stress et compromis. Éléments de réponse avec nos experts, le standard, vous êtes ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter, racontez-nous si vous êtes à l'aise avec votre prénom, nos invités vous donneront également des conseils pour choisir le bon prénom pour vos enfants. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Marie-Christine.
Et ça vous plaît ?
Oui, ça aurait pu être pire, je dirais.
Ne me plaît pas tellement, mais c'est pas grave. Mais on m'appelle Vivi, alors ça fait un peu mieux.
L'an dernier, Josie, 68 ans, a pris une décision radicale, changer de prénom.
C'était une renaissance. Je l'ai envoyé à tout le monde, je crois. Et alors, parce que maintenant, je n'ai plus besoin ni de tricher, ni de mentir. Et il me semble que Josie, avec cette voyelle qui est un petit peu sonore à la fin, là, ça fait un peu plus de peps et de dynamisme et de positivisme. Voilà. Je trouve qu'il a été toujours trop vieux pour moi. Voilà.
Extrait du JT de France 2 en décembre 2019. Bonjour Baptiste Coulmont.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay et vous avez publié à la découverte Sociologie des prénoms. Bonjour Anne-Laure Cellier.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en psychologie sociale et cognitive et professeure associée à HEC et vous avez publié La science des prénoms chez Héliopole. Bonjour Julie Milbain.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous publiez le guide des prénoms chez Solar. Bonjour Stéphanie Rapoport.
Bonjour.
Vous êtes créatrice du site meilleurprénoms.com et la co-autrice de l'officiel des prénoms chez First. Alors Anne-Laure Cellier, dans leur ensemble, les Français aiment-ils leurs prénoms ? Dans leur globalité, les gens aiment-ils l'étiquette choisie par leurs parents et qui leur colle à la peau pour la vie ?
Alors merci pour cette question. La réponse n'est pas évidente parce qu'on n'a pas de données rigoureusement sélectionnées à ce sujet. Ce que je sais depuis la sortie de mon livre en 2018, c'est que effectivement j'ai été sur un certain nombre de plateaux de radio et il y a eu des appels à auditeurs faits avec la question très simple, est-ce que vous vous sentez bien dans votre prénom ? Et ce qui est très surprenant, c'est que dans le plus large que j'ai fait sur BFM, il me semble, il y avait un tiers des auditeurs qui disaient être mal dans leur prénom. Et puis il y a des petites études de ci, de là, en Angleterre, ça se passe aussi à l'international, où finalement une foule considérable de personnes rapportent ne pas se sentir bien dans leur prénom et ça peut aller jusqu'à la souffrance. C'est intéressant d'entendre Josie qui parle de renaissance. C'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises. Et donc cette petite étiquette qui nous est donnée à la naissance, c'est vrai qu'on la remet pas trop en question, peut-être parce qu'elle nous est donnée, c'est un cadeau. Donc socialement, il est indésirable de la remettre en question. Mais effectivement, il me semble aujourd'hui accepter la possibilité que certaines personnes ne soient pas bien dans leur prénom sans que cela signifie qu'elles ont un problème. Ça peut être une souffrance qui est que le prénom évoque une personnalité, une manière d'être qui ne leur correspond pas. C'est-à-dire, c'est comme un vêtement qu'on n'arrive pas à porter. Il y a des vêtements qui sont très beaux et qu'on n'arrive pas à porter. Ben, un prénom, c'est pareil.
Baptiste Coulmont, beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit n'aiment pas leur prénom.
Alors, ils l'aiment pas, mais ce qu'on voyait avec ce que disait Josie dans le reportage de France 2, c'est que elle dit « je n'ai plus besoin de mentir et de tricher », comme si en fait la vérité de l'identité, elle était dans l'état civil. Donc ça, c'est une croyance très forte que le vrai... Mais c'est quoi ton vrai prénom ? Comme si il y avait une vérité plus forte dans l'inscription dans un registre d'état civil plutôt que dans le prénom d'usage. Pendant très longtemps en France, le prénom de l'état civil, c'était comme le numéro de sécurité sociale. Vous l'aviez, mais vous en faisiez pas quelque chose d'intérieur. Aujourd'hui, c'est vu comme exprimant la vérité. Donc c'est surtout ça, c'est la moindre force du prénom d'usage.
Ne pas aimer son prénom, ça peut poser des problèmes identitaires.
En fait, je ne sais pas si c'est la question d'aimer ou pas qui se pose vraiment, parce qu'il y a c'est plutôt la difficulté qu'il peut y avoir à vivre avec un prénom qu'on ne souhaite pas, pour une raison ou pour une autre, mettre en avant, qui va pousser les personnes à changer de prénom. Si c'est juste une question de goût.
Julie Milbain.
Alors, il est vrai que le prénom influence l'image de soi, et une étude a été menée aux États-Unis sur une corrélation positive entre l'estime de soi et l'auto-évaluation de son propre prénom. Donc on retrouve un petit peu ce que disait Josie sur France 2, le fait de se sentir... la question de l'investissement de son prénom, comment on le vit et comment on se sent dedans. Donc alors peut-être en effet que le mot identitaire est un peu fort. Néanmoins, il y a un vrai parti pris avec l'estime de soi, le fait de se sentir bien, voilà, la confiance.
Anne-Laure Sellier, ça peut, je reprends cette question, hein, ça peut peut-être poser des problèmes identitaires quand notre prénom trahit nos origines sociales modestes, ou quand quand on aspire à s'élever socialement, ça peut poser un problème.
Alors, pas forcément socialement, hein. Ça peut être strictement au niveau personnel. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes d'origine maghrébine, par exemple, dont les parents avaient fait le choix d'un prénom terroir, on va dire, donc qui masquait leur origine maghrébine, et qui l'ont très mal vécu. J'ai connu une Jennifer qui a décidé d'appeler sa fille Leila, parce qu'elle m'a dit « Toute ma vie, j'ai lutté avec ce prénom Jennifer qui ne correspond à rien et qui renie mon origine maghrébine, et donc j'ai voulu corriger ça avec mes enfants. » Et à l'inverse, j'ai connu un garçon qui s'appelait Mehdi, qui a voulu changer pour Marc, parce que justement, il se sentait plus français que d'origine maghrébine. Donc, vous voyez, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. C'est vraiment comment le prénom résonne dans l'identité de chacun. Et donc, c'est terrible, en un sens, parce qu'il n'y a pas de... Les parents ne peuvent pas... Il n'y a pas de prénom refuge, hein. Il n'y a pas de prénom qui marche à tous les coups. C'est vraiment comment le prénom va résonner au sein de la vie de chacun, finalement.
Donner un prénom est un acte capital, hein, dans l'existence d'un individu. Au fond, ce qui est assez étrange, c'est de porter un prénom que l'on n'a pas choisi, choisi par ses parents, et qui bâtit une bonne partie de notre identité, Baptiste Coulmont.
Oui, alors que on a toute liberté en tant que parent de choisir le prénom de son enfant, mais on n'a pas ce contrôle plein et entier encore, hein, en France, c'est différent dans d'autres pays, sur le prénom que l'on porte, de la même manière que, enfin, le nom de famille donc il y a une certaine contrainte à l'action qui le rend en fait très très intéressant pour des sociologues et des pratiquants des sciences sociales.
Et pendant longtemps, il a fallu rester dans les stricts clous, hein, définis par l'Église et l'État. En 1792, le nom de baptême se transforme en prénom, et au cours du XXe siècle, l'étau des prénoms, du choix des prénoms, s'est desserré. Hein.
Au sens où, il est très difficile pour l'État, même déconcentré au niveau des communes, de surveiller l'ensemble des choix, hein, des parents. Il y a quelques années, il y avait encore 800 000 naissances par an. S'il y avait 800 000 contrôles qui se font, ça coûte. Donc, depuis les années 60, il y a un processus de libéralisation qui a fait que, depuis 1993, maintenant, les parents ont un choix plein et entier sur le choix et l'inscription à l'état civil de leur choix. L'officier d'état civil ne peut pas refuser d'inscrire le prénom que les parents souhaitent, mais s'il pense qu'il y a un problème, il peut saisir le procureur.
Seuls les parents peuvent légalement choisir le prénom, Stéphanie Rapoport. Ni les grands-parents, ni les parrains, ni les marraines. C'est le strict choix des parents.
Absolument. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix qui se fait dans le couple, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche forcément. Hein. C'était peut-être plus facile avant, quand on était parents, de donner le prénom du grand-parent ou du parrain et de la marraine. Aujourd'hui, l'INSEE recense plus de 32 000 prénoms. Et puis, je ne compte pas tous les prénoms qu'on trouve sur Internet dans le monde entier. Ça fait des milliers de prénoms qui peuvent être choisis. Et ça ne facilite pas forcément le choix. Mais
oui,
c'est effectivement un choix de couple.
Et ce choix est le fruit de négociations, de conflits, de compromis. Et la difficulté, elle s'accroît quand les deux parents ne partagent pas les mêmes origines sociales, ethniques, religieuses.
Absolument, c'est une négociation. En général, les parents quand même finissent par tomber d'accord. Et moi, les retours que j'ai, c'est que ça n'est pas plus la maman ou le papa qui choisit le prénom. Parfois, ils se mettent d'accord pour le premier enfant, ça va être plus la maman qui va avoir gain de cause. Alors, s'il y a des discussions un petit peu difficiles, là, ils peuvent toujours se mettre d'accord pour que le deuxième enfant soit le prénom soit choisi par le papa.
En tout cas, le choix du prénom est un excellent exercice conjugal.
Absolument.
Alors, nous vous donnerons tout à l'heure des conseils pour bien choisir le prénom de votre enfant, pour éviter autant que possible de futures souffrances, entre guillemets, liées à ce choix. Anne-Laure Cellier, à l'issue de la publication de votre livre « Le pouvoir des prénoms », vous avez reçu énormément de témoignages des lecteurs, des auditeurs qui ont vidé leur sac. Un tel qui vous dit qu'il ne s'est jamais bien senti dans son prénom. Zélinette qui vous confie la galère qu'a été son existence. Catherine qui vous chuchote qu'elle se fait appeler Christine, André qui vous avoue se sentir beaucoup mieux depuis qu'on l'appelle Sébastien, ou Mohamed qui vous dit croquer la vie depuis qu'il s'appelle Bruno.
Oui, donc effectivement, ça a été une grande surprise, parce que vous savez, les chercheurs, on est dans nos labos, on étudie la réponse moyenne de personnes à certains phénomènes sociaux, et effectivement, une grande surprise à la sortie de la première version de mon livre, Le pouvoir des prénoms, ça a été ces nombreux témoignages dont je parle dans la deuxième version du livre, que vous avez évoqué tout à l'heure, La science des prénoms. Et effectivement, c'était, donc on en parlait tout à l'heure, identitaire. En fait, ce qui se passe, ce qu'on a compris comme mécanisme, c'est qu'un prénom vient avec un stéréotype de ce prénom. C'est-à-dire que vous et moi partageons un stéréotype de ce à quoi ressemble une Anne-Laure aujourd'hui, physiquement. Il y a une façon d'être une Anne-Laure, comme il y a une façon d'être un Ali, comme il y a une façon d'être une Stéphanie. Et c'est très bien, c'est formidable, les stéréotypes, on en partage surtout. On partage aussi ce que c'est le stéréotype d'un éléphant vert. On a tous une image assez similaire qui nous vient à l'esprit. Le problème vient quand le visage qu'on peut présenter aux autres ou que l'on veut présenter aux autres n'a plus rien à voir avec ce prénom. Et donc, ça peut affecter n'importe quel prénom. J'ai connu, par exemple, une Marie, avocate, extrêmement bien sous tout rapport, qui m'a soufflé effectivement souffrir d'être une Marie. Et quand je lui ai demandé pourquoi, parce que quand même Marie, on se dit ça mange pas de pain, des Maries, c'est un prénom passe-partout, elle m'a dit mais je ne suis pas une Marie. Donc cette notion de stéréotype, je ne suis pas une Marie. Elle ne sait pas ce qu'elle est d'ailleurs, mais elle sait qu'elle n'est pas une Marie. Et donc il y a encore une fois cette notion qui peut surgir de souffrance du prénom, qui est très nette.
Baptiste Coulmont, vous allez dans ce sens-là ?
De la difficulté à vivre avec certains prénoms, oui, surtout quand cette personne, Marie par exemple, en fait, considère que c'est le prénom de l'état civil qui s'impose à elle et qu'elle a du mal à imposer ce qui serait un prénom d'usage dans... Donc, oui, en fait, puisque le prénom que l'on porte au quotidien, il a aussi cette dimension d'usage. On est interpellé par ce prénom. Si on considère que le prénom de l'état civil, pour une raison ou pour une autre, des conflits parentaux, etc., ne répond pas à l'ensemble de ce qu'on est, et que l'on a une croyance très forte que c'est ce prénom qui exprime la vérité de son identité, oui.
Julie Milbain.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette croyance que le prénom exprime son identité qui est nécessaire et qui peut conduire certains individus à demander un changement.
Question personnelle, vous l'aimez votre prénom, Julie?
Ça dépend des moments. Vraiment. Et je pense que d'ailleurs, c'est un état d'esprit qu'on partage un peu tous. Est-ce que vous aimez toujours vous appeler Baptiste?
Baptiste, est-ce que vous aimez votre prénom?
Moi, j'ai pas de problème. En fait, j'y vois un avantage, un intérêt. Ce qui est amusant, c'est que c'est une expérience fréquente, en fait, que les personnes se trompent. Donc, les personnes plus âgées vont m'appeler Jean-Baptiste parce que les Jean-Baptiste sont plus anciens que Baptiste. Et donc, les petites erreurs c'est quelque chose de fréquent. J'imagine qu'à un moment, on a pu vous appeler Juliette ou Ali, on a pu vous appeler Mehdi ou autre chose. Enfin, et on se dit, mais pourquoi?
C'est quand même, oui, pourquoi pas.
Donc, c'est ces moments-là où on nous dit, il y a un désajustement. Certains, par exemple des Marianne qui sont des Marianne, là c'est plus fréquent, c'est au quotidien, donc là c'est plus porteur, c'est plus fort. Moi, j'ai pas de...
Et vous, Anne-Laure, vous l'aimez, Anne-Laure Cellier, votre prénom?
Alors, j'ai eu du mal à l'adolescence, parce que Anne-Laure, c'est une image pour moi de quelqu'un de très classique, de très sage. Et j'en ai changé à l'adolescence. Donc, on voit bien, on en parlait tout à l'heure, vous évoquiez les personnes qui sont appelées autre chose que leur prénom. Et donc, j'avais inversé, j'avais dit Laurane. Je trouvais que Laurane, ça faisait rock. C'était parfait pour l'adolescence. Et en revanche, je suis revenue vers Anne-Laure au moment de l'envoi des CV, vers 18 ans. Parce que quand on passe un entretien dans la haute finance, Anne-Laure, ça passe tout seul. Et on se rend compte que effectivement un prénom au final, vous pensez que c'est le vôtre, mais en fait le prénom il appartient au moins autant aux autres qu'à vous. C'est-à-dire que le prénom il résonne chez les autres et les autres vous renvoient l'image de leurs attentes, de quelqu'un qui porte ce prénom dans la société.
Et notre technicienne Anne-Laure acquiesce à vos propos. Nous accueillons Marine au téléphone. Bonjour Marine.
Bonjour.
Marine, c'est votre prénom d'origine, de votre naissance ?
Non, c'est mon nouveau prénom.
C'est votre nouveau prénom. Racontez-nous un peu cette histoire, Marine.
Alors, je ne citerai pas mon prénom d'origine, parce que ça me fait mal. Et vers 18-20 ans, avec une de mes sœurs, on s'est amusé à changer de prénom comme ça. Moi, j'avais choisi Marine par amour du bleu et de l'océan et des bateaux. Et puis, j'avais une autre sœur que j'ai appelée Fredo à ce moment-là, qui ne s'appelait pas du tout comme ça. Alors moi, effectivement, j'ai tenu à ce changement de prénom. C'était le début de mes années de fac. Donc, toutes mes nouvelles relations, etc., c'était Marine. Je me sentais bien là-dedans. Et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir changer de prénom officiellement l'année dernière à La Rochelle. J'ai fait la démarche et j'en ai pleuré tellement c'était émouvant, quoi. Comme vous disiez, c'est une renaissance et c'est très important pour moi.
Qu'est-ce qui vous faisait souffrir avec votre ancien prénom, Marine ?
Je ne souffrais pas vraiment, mais c'était une page d'enfance dont je n'étais pas très heureuse, où je n'ai pas été très heureuse. Et j'avais envie de me fabriquer un monde à moi, où enfin je choisissais de faire ce que je souhaitais, faire des études, etc. Et donc ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie, avec de l'autonomie, de l'indépendance. Et vraiment, je me suis épanouie avec ce prénom toute ma vie. Alors, ce qui est étonnant, c'est que tous mes décors d'appartement, c'est toujours sur un fond marin. Je n'arrive pas à en sortir. Même quand je suis venue à Bordeaux, je me suis dit que peut-être changer de déco, mais non, c'est resté sur le thème marin. Et j'habite La Rochelle, donc
c'est pour vous, Anne-Laure Cellier. C'est du pain béni.
C'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai beaucoup entendu, à ma grande surprise. C'est-à-dire que je ne savais pas à quel point ce genre de témoignage était finalement fréquent. J'ai eu une femme qui est arrivée dans mon bureau HEC en larmes pour me remercier du livre, et qui venait de changer de prénom, qui, comme vous, Marine, a refusé de me donner son prénom d'origine, son premier prénom plutôt, et qui m'a dit j'ai décidé de changer de prénom il y a quelques années, et lorsque je l'ai fait, mon père m'a menacé de me tuer.
Ah.
Donc elle ne l'a pas fait, et elle m'a dit le jour où mon père est mort, je suis allée à son enterrement, je suis sortie de l'enterrement, et je suis allée directement à la mairie. Et j'ai changé mon prénom et je renais. Donc c'est intéressant, on entend ces mots de renaissance et on comprend très bien quand on comprend qu'il faut finalement se mettre à la hauteur de son prénom et que parfois on ne peut pas se mettre à la hauteur de son prénom. C'est encore une fois, c'est comme le manteau qui ne vous va pas, c'est tout, c'est pas grave, ça peut être du Chanel, si vous ressemblez à un canard dedans, ça sert à rien. Donc il faut l'accepter et encore une fois, ça peut arriver avec des prénoms étranges, exotiques, originaux, mais aussi avec des prénoms qui peuvent sembler ne pas manger de pain. Un Louis a le droit de se sentir mal dans son prénom, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup Marine de nous avoir appelé. Dans quelques instants, nous verrons quelle est la procédure et les freins du changement de prénom. Ce sera juste après France Gall, elle a à 10h26.
Tu l'as, elle a, elle a. mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas.
France Gall, Ella, Ella.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Grand bien vous fasse.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
Ali Rébéi.
Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste.
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Sur France Inter.
Aimez-vous votre prénom? C'est la question que je vous pose ce matin. Nos experts vous racontent comment se choisir un prénom, ce qu'ils racontent de nous, comment changer et comment faire le bon choix pour son enfant pour éviter un futur spleen du prénom. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter. Énormément de mails. Je m'appelle Corinne. Ce n'était pas facile car il est très daté. Beaucoup de parents ont choisi ce prénom au début des années 60. Pas besoin de donner mon âge dans un dîner. Et puis avec Éric Zemmour, il est devenu caricatural et porteur d'une pensée insupportable, la totale. Mes parents ont eu la bonne idée, bonne entre guillemets, de m'appeler Marie-Philippe. Ils s'attendaient à avoir un garçon qu'ils auraient appelé Philippe. Et voilà qu'une petite fille arrive. C'était en 1958 et l'échographie n'existait pas. Drôle de prénom, à la fois féminin et masculin. À l'école, je n'étais entouré que de Sylvie, de Françoise, de Martine. Je n'aimais pas mon prénom et rêvais de m'appeler Pascal. Au fil des années, j'ai appris à l'aimer, à le trouver très original. Et je n'en changerai pour rien au monde. Alors imaginons que mon prénom, Ali, ne me plaise plus, ce qui n'est pas le cas. Bon, imaginons, je souhaite désormais m'appeler Arthur. Quelle est la procédure, Julie Milbain? Je rappelle que vous publiez le guide des prénoms. Expliquez-moi ce que je dois faire.
Eh bien, il faut faire un petit peu, alors j'allais dire l'inverse de lorsqu'on va déclarer un prénom. Mmh. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'aller en mairie, exactement. Il suffit d'aller en mairie, d'exprimer son choix. Et à ce moment-là, la décision sera prise et suivie par le procureur de la République. Et le choix est plus fluide qu'avant.
Baptiste Coulmont, professeur de sociologie, spécialiste des prénoms. On ne passe plus devant un juge depuis 2017.
Ouais, hein. Passe plus devant un juge. Alors il faut toujours trouver des bonnes raisons.
Alors,
au changement.
C'est quoi ces bonnes raisons d'ailleurs?
Une des plus simples, c'est l'usage prolongé. Mm-hmm. C'est transformer un prénom dont vous pouvez montrer l'usage hein, par des cartes de fidélité, des cartes postales, mm-hmm. des comptes sur les réseaux sociaux, une ancienneté, des fiches de salaire, mmh. L'ancienneté de l'usage du prénom mmh. que vous souhaitez porter. Après, il y a d'autres raisons plus anciennes qui sont liées à ce qui se passait dans les années 50 quand la loi a permis de changer de prénom. C'est des questions d'intégration. Donc, il suffit de dire « je veux m'intégrer mmh. » et de donner un prénom qui sent bon l'intégration, on va dire. Mmh.
On peut accepter un changement, enfin, si son prénom est jugé ridicule ou oui. si la jonction entre le nom et le prénom est ridicule.
Oui, mais...
Aude Vaisselle, par exemple, ou Mégane Renaud.
C'est... Oui, voilà. Mais les parents y réfléchissent quand même beaucoup avant. Et donc, ces formes ridicules sont relativement peu fréquentes. Quand j'avais travaillé sur les changements de prénom et quand il fallait s'adresser à un juge, c'était le prénom d'usage qui était la base des changements. Mmh. Et il y a... Juste une petite chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, parce qu'on se concentre sur des cas individuels et mmh. des affaires individuelles, mais les gens qui changent de prénom, en fait, ils en profitent pour prendre un petit supplément. En fait, ils prennent toujours un prénom plus jeune qu'eux. donc, ils en profitent pour prendre un prénom qui est une génération plus jeune que le prénom qu'ils ont abandonné, puisqu'on sait que les prénoms connaissent une mode. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que Fabienne va devenir Florine, par exemple. Mmh.
Anne Lorcellier, je rappelle que vous êtes psychologue sociale. On peut demander un changement de prénom quand on a l'impression de ne pas avoir le physique de son prénom. Par exemple, oui. j'ai une jeune fille de 22 ans qui s'appellerait Morissette en 2022. Est-ce que on pourrait accepter son changement de prénom pour cette raison-là?
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je crois que dans un des livres de Baptiste Coulmont, j'avais lu le cas d'un garçon d'origine maghrébine qui avait porté un prénom Pierre, enfin un prénom encore une fois un peu terroir et stéréotypé français d'origine caucasienne, et qui disait qu'il n'avait pas la tête de son prénom. Hein. C'est littéralement, je n'ai pas la tête de mon prénom. Donc je souhaite en changer. Donc oui, tout à fait, tout à fait. On peut vouloir en changer pour cette raison.
J'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de francisation. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la francisation s'impose. Elle est valorisée à ce moment-là par les gaullistes et les socialistes, justement.
Oui, parce que en fait, jusqu'au 19e siècle, vous changiez de pays, vous changiez de prénom. Maria Antonia, quand elle est arrivée en France et qu'elle a épousé le futur roi Louis XVI, elle est devenue Marie-Antoinette. Et c'était le cas pour vous changiez de pays, de langue, vous changiez de prénom. Quand l'État civil s'est structuré et structuré à l'international, vous transportiez avec vous votre prénom. Ça posait pas de problème tant qu'il n'y avait pas de carte d'identité, mais à partir du moment où les gens ont été forcés de porter des papiers d'identité, ben ce prénom-là, qui n'avait aucune existence locale, a continué à être porté. Et ça rendait visible des personnes qui n'avaient pas envie d'être visibles. D'où l'idée de un peu paternaliste de dire « Bon, bah, vous savez, en France, on est un peu raciste, donc ce serait mieux que vous francisiez votre prénom. » Alors, ça se faisait, mais ça n'a jamais été la majorité des personnes qui prennent la nationalité française mais qui ont choisi la francisation.
Il faut noter qu'à ce sujet, pendant longtemps, la droite nationaliste était opposée à la francisation des prénoms étrangers. Pour évoquer un projet de loi à ce sujet, le Figaro du 27 juin 1927 parle d'un déguisement des envahisseurs. Je cite toujours le Figaro. Un nombre infini de métèques, surtout dans le monde parisien, se cachent sous des noms français, sous prétexte de sauvegarder la musicalité de notre langue, en réalité, pour endormir notre méfiance.
Oui, parce qu'en fait, le choix des étrangers, des immigrés, etc., du point de vue de l'extrême droite, c'est jamais le bon. Soit ils cherchent à être invisibles, et à ce moment-là, oh là là, ça va pas, il faut... Soit ils ne cherchent pas à devenir invisibles parce qu'ils pensent que leur identité civile vaut autant qu'une autre, et à ce moment-là, ils n'ont pas le bon comportement non plus.
Anne-Laure Cellier ?
Oui, peut-être qu'il faut souligner, je suis tout à fait d'accord avec ce que Baptiste vient de dire, il faut souligner aussi que l'utilisation du prénom, d'un point de vue anthropologique, en France, était beaucoup plus flexible jusqu'à très récemment. L'anthropologue Françoise Zonabend a bien remarqué que dans des villages du Limousin, vous aviez la même personne qui, selon le rôle social qu'elle remplissait dans le village, à différents moments de la journée, pouvait porter différents prénoms. Hein, donc c'était Françoise le matin quand elle vendait le lait, et le soir quand elle vend le pain, elle s'appelle Simone. Hein, donc on voit très bien que les personnes avaient des prénoms différents. Wolfgang Mozart a changé 4 fois de prénom au cours de sa vie. Hein, son père meurt, il se fait appeler Adam. Hein, parce que encore une fois, il a lui-même dit qu'il se sentait renaître après son père. Et on sait qu'il avait une relation avec son père extrêmement complexe. Donc il a transformé Amadeus en Adam. Et ça, c'était quelque chose de très commun, qu'on a perdu finalement. Et on change tous au cours de notre existence. Donc, en fait, en plus, à la couche de la difficulté d'être à la hauteur de son prénom, s'ajoute celle du fait que l'on change. Donc, c'est naturel qu'à des moments différents de notre vie, on se sente plus ou moins bien dans son même prénom.
Baptiste Coulmont, il y a parfois eu des francisations forcées. Je pense au cas du footballeur Vicente Lizarazu, né en 1969, à l'état civil, à sa naissance, il s'appelait...
Vincent. Ouais. Oui, mais c'était, il est né avant 1993. Les officiers d'état civil avaient la possibilité de modifier l'orthographe des prénoms. Et l'officier d'état civil, à l'endroit où il est né, a dû dire non, Vicente, c'est Vincent. Et je pense que, enfin, je me souviens plus de la date, mais quand il devient célèbre, il demande à changer de prénom. Donc il fait une procédure, un avocat, etc. Et le fait qu'il porte depuis très longtemps le prénom Vicente fait que l'état civil se plie en fait à l'usage.
Et nous accueillons Marie Jacotte. Bonjour Marie Jacotte.
Bonjour.
Alors, racontez-nous votre histoire intime avec votre prénom.
Elle est compliquée. C'est un prénom vraiment très particulier que mes parents ont voulu me donner. Mon papa s'appelait Jacques. Et Marie Jacotte, c'est très mignon pour une petite fille. Sauf que quand cette petite fille grandit et qu'elle devient notamment adolescente, c'est très difficile à porter. J'ai eu énormément de surnoms pas forcément très agréables, mm-hmm. comme Marie Capote, par exemple, mm-hmm. pour la plus vulgaire. Mm-hmm.
Vous avez quel âge aujourd'hui, sans être indiscret?
Non, c'est pas indiscret, j'ai 45 ans.
D'accord.
Et ça fait un peu moins de 10 ans que... Enfin, ouais, on va dire à partir de 40 ans, j'ai assumé mon prénom. Mm. Avant, je me faisais beaucoup appeler Marie. Marie, il y en a beaucoup. Et maintenant, je demande à ce qu'on m'appelle Marie Jacotte. Voilà, j'y tiens. Sauf... je parle un peu anglais avec des collègues mm-hmm. et des amis. Et je ne supporte pas, en fait, la manière dont les étrangers prononcent mon prénom.
Donnez-nous un exemple, Marie Jacotte.
En allemand, ça donne Marie Jacotte. Voilà.
D'accord.
C'est très, très moche. Et donc, je me fais appeler Jackie, avec un D comme à l'américaine.
Qu'est-ce qui vous a aidé, Marie Jacotte, à réinvestir ce prénom que vous n'aimiez pas quand vous étiez adolescente et dont on se moquait dans la cour d'école ou du lycée?
Ce qui m'a aidé, en fait, c'est que des Marie, il y en a beaucoup. Donc je trouvais que c'était finalement impersonnel de m'appeler Marie, ce n'était pas moi. Mmh. Et que mon vrai moi, c'était Marie Jacotte. Mmh. Et quand j'appelle quelqu'un que, par exemple, je n'ai pas eu depuis très longtemps, il suffit que je dise mon prénom, je n'ai pas besoin de dire mon nom de famille. Mmh. Tellement il est particulier.
Tiens, Stéphanie Rapoport, voilà. Vous vouliez réagir au propos de Marie Jacotte
Oui, c'est très intéressant. D'une part, ça montre bien que les parents doivent se poser la question du prénom sur la longueur, sur la durée de la vie de l'enfant. Pas donner seulement un prénom parce qu'il sera mignon quand l'enfant est petit. Il faut penser aussi à ce que la personne va vivre quand elle grandit. Dans le cas de Marie Jacotte, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elle s'est réappropriée et elle aime ce prénom. Et il y a une résonance avec les histoires qu'on entend, les ressentis personnels du prénom, même quand, dans la société, il peut y avoir un regard un petit peu plus critique sur le prénom qu'on porte. Par exemple, il y a énormément d'individus qui ont des prénoms très communs, mmh. qui n'aiment pas ce prénom parce qu'il est trop impersonnel, etc. Et en fait, au niveau de la société, c'est beaucoup plus facile de porter un prénom commun. On a beaucoup plus de chances d'avoir des retours à des emails ou à des demandes d'emploi quand on a un prénom très commun. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il peut y avoir une déconnexion entre ce ressenti personnel du prénom qu'on porte. Et puis, d'un autre côté, je voulais citer l'exemple d'une étude dans Freak Economics qui est parue il y a quelques années. Et il y avait le prénom, une famille qui avait appelé le prénom Winner, un de ses enfants, et ensuite Loser, l'autre enfant.
Oula. Gagnant et perdant.
C'est très intéressant. Ouais,
c'est très intelligent, ça.
Celui qui s'appelait Winner a fini en prison. Celui qui s'appelait Loser fait une carrière florissante. Et c'est ses collègues qui étaient gênés par le nom Loser, ses collègues américains, qui avaient proposé de l'appeler Losier. Pour changer, pour franciser, pour ne plus prononcer le mot loser qui veut dire perdant. Et en fait, ce monsieur loser a insisté pour qu'on l'appelle loser.
Merci beaucoup Marie Jacotte de nous avoir appelé. Alors en 2022, on s'accordera peut-être à dire que Morissette est un prénom dépassé. Je suis mille bon, mille bain.
Oui et non, parce que Morissette, c'est un prénom qui peut être, à l'instar d'une Jacqueline ou d'une Simone, prisé dans certaines catégories sociales, plutôt artistes, plutôt branchouilles, qui sont plus aptes à aller vers des choix plus originaux dans une quête de distinction.
Mais les prénoms féminins avec la terminaison « être » sont...
C'est de toute façon
plus difficile que Simone. Vous parlez du cas de Simone Baptiste Coulmont. Au début du XXe siècle, c'est un prénom en vogue. Ensuite, il y a eu une désuétude. Et il revient dans les années 2020 à la mode.
Il revient un peu. Alors, il n'est pas dans le top. Mais des parents peuvent appeler leur enfant Simone. De la même manière que dans les années 70, on trouve des petites filles qui s'appellent Léonie, alors que c'est un exemple parfait de prénom démodé à ce moment-là. Mmh. Et les Léonie ont eu un petit succès jusqu'au début des années 2000, je pense. Donc, en fait, les prénoms, une fois qu'ils ont commencé à être donnés, à part certains, ne vont pas vraiment disparaître. Ils peuvent être remis en circulation à partir du moment où les personnes qui portaient ce prénom sont mortes.
Mais comment un prénom devient-il à la mode et comment se démode-t-il En 2020, c'est un chiffre que j'ai lu dans votre livre, Baptiste Coulmont, les 2120 prénoms les plus donnés en France suffisent pour nommer 80% des enfants. Et il faut plus de 10 000 prénoms pour nommer les 20% restants.
Et donc les 20% restants, c'est des tout petits prénoms. Ceux-là, ils sont pas vraiment à la mode. Ils sont portés parce que il y a quelques Laotiens, il y a quelques Malgaches en France. Et donc c'est des prénoms très rares. Quelques personnes qui choisissent des variations orthographiques. Mais donc ces prénoms-là sont pas à la mode. Le cœur du moment historique dans lequel il y avait vraiment des modes que les personnes suivaient vraiment beaucoup, c'est, on va dire, entre les années 50 et les années 70, où on a des prénoms comme Nathalie, Sylvie, qui engage une partie des naissances. Aujourd'hui, les choix sont beaucoup plus variés. Il reste des prénoms à la mode, mais si on prend le prénom le plus donné en 2020 ou 2021, alors je sais pas si c'est Gabriel ou Louise, mais il est donné à 1% d'une classe d'âge. Mais donc 99% des enfants ne portent pas le prénom le plus donné.
Mais par quel effet boule de neige, Léo ou Jade deviennent des prénoms à la mode? Pourquoi ces prénoms-là?
Donc il y a des raisons structurelles. Il y a une tendance au raccourcissement du nombre de lettres depuis les années 50. Donc un prénom avec une lettre en moins, en gros, il est 20 ans plus jeune qu'un prénom avec une lettre en plus. Il y a pour les prénoms féminins un rejet des anciennes terminaisons comme en et ou en in, etc. Donc les terminaisons
pour Juliette, pardon, je me permets de vous interrompre.
Les terminaisons en a deviennent par défaut des terminaisons qui sentent le goût du jour beaucoup plus. Donc il y a des raisons structurelles, et puis après il y a des raisons quand on cherche un prénom, on teste, on écoute, on entend, etc. Et on va entendre un prénom dans la rue ou chez des amis ou dans une réunion de famille qui va nous dire ah bah oui, ce prénom-là est possible.
Anne-Laure Cellier.
Oui, alors en psychologie sociale, on comprend très bien comment c'est le mécanisme en fait qui fait que tout d'un coup un prénom flambe. C'est un mécanisme de mimétisme. Donc, comme disait Baptiste Coulmont, vous allez avoir un Léon. Au début, ça va faire bizarre. Deux Léons dans la cour de récréation de l'école, ça commence à être intéressant. Et au bout de 3-4 Léons, c'est suffisant pour lancer ce que vous disiez, Ali, c'est-à-dire ce phénomène boule de neige. Donc, les prénoms, les modes de prénoms, se font pas de façon aléatoire. Il y a des feux, des départs de feux qui sont dans des cercles sociaux. Historiquement, ces feux-là avaient une direction. Souvent, c'était les prénoms aristocratiques qui étaient imités. Donc, dans la classe aristocratique apparaissait le prénom Charlotte, et Charlotte descendait jusque dans la classe paysanne. Et puis, il mourroyait dans la classe paysanne jusqu'à ce qu'il revienne dans la classe aristocratique plus tard. D'ailleurs, on le voit très bien. D'ailleurs, si on prend le prénom Charlotte qui a été choisi par la princesse, la duchesse de Cambridge, on peut s'attendre à un retour de Charlotte dans quelques années à travers ce phénomène-là. Plus récemment, il y a quelque chose de plus gênant qui est apparu, qui est l'apparition de modes de prénoms dans des classes socio-économiques moins avantagées et des prénoms qui restent dans ces classes. Alors la caricature, le prénom très connu qui a fait cette trajectoire-là, c'est Kevin.
Dans les années 80-90, ouais.
C'est ça, Kevin n'a jamais décollé socialement, étiqueté.
C'est le cas aussi de Brandon, Jennifer, et récemment peut-être de Kylian, en lien avec le footballeur Kylian Mbappé, qui a connu une flambée, vous me confirmez, Julie Milbain, et puis qui finalement décroche.
Absolument.
Ouais, assez vite. Ouais. Stéphanie Rapoport, vous vouliez réagir?
Sur les prénoms qui sont très donnés aujourd'hui. Dans le top 3, on a Jade, Emma et Louise au féminin, Léo, Gabriel, Raphaël au masculin. Et donc on tombe tout à fait sur ce raccourcissement des prénoms, avec Jade et Louise qui sont composés d'une syllabe seulement et qui sont dans le top 3. Léo qui fait 3 lettres. On a aussi, je voulais juste mentionner que dans le top 20, on a une montée des prénoms de l'Ancien Testament depuis plusieurs années au masculin. Gabriel, Raphaël, Noah, Eden,
Nathan.
Et même Isaac. Isaac qui va bientôt rentrer dans le top 20. Et puis des prénoms de la nature aussi. Il faut quand même les mentionner. Au féminin, on a Jade, Ambre, Agathe. Et on a Rose et Iris dans les fleurs. Donc on a une montée de ces prénoms de la nature qui est peut-être liée au confinement, à ce désir de verdure, de la nature, de sortie.
Baptiste Coulon, il y a des prénoms qu'on ne retrouve qu'au sein d'une classe sociale. Dans les classes populaires, on retrouve peu de Stanislas, de Gaspard, d'Isor ou de Kitry, hein, et dans la bonne bourgeoisie, très peu de Brandon, de Kevin.
Les classes populaires ont conquis en fait leur autonomie culturelle à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Elles ont, ça dérangeait pas la bourgeoisie que le bas peuple prenne les restes culturels, hein, comme des prénoms abandonnés. Ça a beaucoup dérangé quand des ouvriers et des employés ont dit non, on n'appellera pas notre enfant comme vous appeliez vos enfants il y a 20 ans. On a des choix différents, des loisirs différents, des manières de prendre des vacances différentes et on a accès au même espace social que vous. C'est un phénomène international qu'on voit en Europe et qui du coup s'est concentré sur des prénoms qui ne circulaient pas auparavant dans ces pays, donc des prénoms néo-celtiques, anglophones, et c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est le dégoût visible de la haute société face à ces choix qui sont nouveaux.
Céline nous écrit « Le père de ma fille et moi avons inventé le prénom de notre fille. On a mélangé les lettres de Scrabble de nos deux prénoms, Romuald et Céline, et on a pioché pour inventer Myline. Que pensez-vous, avant d'écouter le disque, de ces prénoms très très originaux qui n'existent pas, Anne-Laure Cellier ?
Aucun problème avec les prénoms originaux pour ma part. Ils vont être originaux, c'est-à-dire que ce qui est clé, c'est de donner un prénom qui est facile à penser. Donc, si vous me dites Maëline, je vois déjà comment ça s'écrit. J'ai une petite hésitation peut-être sur l'accent sur le E.
Il y a un E tréma.
Tréma, c'est ça, voilà. Donc ça, ce serait ce que je ferais intuitivement. Donc c'est facile. Par contre, si vous donnez un prénom Rodgar, où je ne sais pas s'il y a un H entre le T et le G et ça devient compliqué, il faut envisager la possibilité que votre enfant passe sa vie à expliquer son prénom. Donc c'est ça la difficulté. Mais en soi, le prénom original, ça peut être magnifique. Hein. J'ai une amie qui a appelé son enfant Sol, S-O-L, c'est splendide. Voilà, c'est original, oui, et on sait des prénoms originaux qu'en général, ça vient de familles un peu individualistes, hein, qui ont de grands projets grandioses pour leur enfant, et pourquoi pas.
Julie Milbain.
Oui, il faut juste s'interroger sur la combinaison avec le patronyme, sur... pourquoi pas l'harmonie familiale avec les prénoms du reste de la fratrie, s'il y a. Et sur, alors là, Maëline, c'est extrêmement, ça s'inscrit dans une tendance, c'est facile à porter. Maë et Maëlle sont des prénoms qui fonctionnent bien, donc en effet, ce sera facile pour la personne.
Dans quelques instants, des conseils pour faire le bon choix de prénom, ce sera juste après Lizzo qui chante « About Damn Time ».
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Yeah.
interpréter About Damn Time.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Moi j'ai bien réfléchi, c'est Guylain que je préfère.
Guylain, ça fait snob. Tu vois, ça fait petit costume de velours.
Bah alors, tu n'as qu'à trouver quelque chose de mieux.
Alphonse, c'est idéal. Alphonse, moi je trouve ça très bien.
Alphonse, ça fait paysan. Hein. Et puis Guylain, c'est le prénom du frère de maman.
Christine Dardon, épouse de Wanel. Quel prénom avez-vous choisi?
Alphonse.
Extrait de Domicile conjugal de François Truffaut. Et au terme de cette émission, comment choisir le bon prénom? Julie Milbain du Guide des prénoms, Stéphanie Rapoport de l'Officiel des prénoms. Comment faire le bon choix? Quels sont vos conseils? Il faut peut-être éviter de demander l'avis de tout le monde. Julie Milbain.
C'est ce que je conseille. Alors, on peut consulter, hein, mais demander l'avis, comme ça, on va être rapidement extrêmement pollué. Même si on n'y tient pas, même si on se dit qu'on va tenir bon, en réalité, moi je connais certains jeunes parents qui ont fait le choix de ne pas communiquer leur shortlist à leurs proches afin de garder le suspense et de se ménager. Et puis de toute façon, il faut communiquer entre parents. Le choix revient au père et à la mère. Enfin, c'est l'histoire d'une vie et c'est celle qu'ils ont créée. C'est encore plus qu'un cadeau, c'est une reconnaissance de l'enfant. Donc, la responsabilité leur incombe pleinement.
Stéphanie Rapoport, un conseil?
Oui, je conseille aussi de ne pas en parler aux proches. Et d'ailleurs, j'avais mis en ligne un sondage il y a quelques années et la majorité des parents disaient qu'ils étaient contre l'idée d'évoquer les prénoms choisis avec les proches. Donc ça, c'est une bonne idée. Le conseil, c'est de prendre en compte la sonorité, que le prénom soit harmonieux, qu'il soit harmonieux avec le nom de famille, qu'il soit facile à épeler, comme on le disait tout à l'heure, hein, parce que c'est compliqué de passer son temps à épeler le prénom toute sa vie. Et puis surtout que ce soit un prénom qu'on aime, qui corresponde à toute une histoire derrière, qui est positive, pour pouvoir ensuite dire à l'enfant, expliquer le choix du prénom.
Et il est important que les parents se projettent dans 20-30 ans. Hein, des prénoms mignons quand on a un bébé, un enfant, peuvent être un peu plus compliqués à porter quand on est un cadre supérieur d'une quarantaine d'années et avec le prénom qui correspond peut-être pas à son physique, pour reprendre les travaux d'Anne-Laure Cellier. Tiens, accueillons au téléphone Marc. Bienvenue Marc.
Oui, bonjour, bienvenue, merci d'avoir fait mon appel.
Avec plaisir, Marc. Alors vous avez changé de prénom, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc j'avais un prénom à consonance étrangère, maghrébine, qui m'a causé énormément de problèmes. Inutile d'en faire le tour, hein, on les connaît. Et puis quand les problèmes sont devenus de plus en plus graves, jusqu'à ce que on m'accuse même officiellement d'enlever mes enfants à l'étranger, j'ai décidé de changer de prénom pour faire disparaître tous les problèmes. Et puis comme il y a eu la nouvelle loi, je me suis dit c'est simple, on va juste à la mairie, on explique notre situation, bon, il y a un petit dossier simple, un PDF, c'est super. Malheureusement, dans la réalité, c'est pas aussi simple que ça.
Pourquoi?
Parce que à la fin, ça m'a donné 3 ans de procédure. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un officier d'état civil qui est censé prendre une décision tout seul, et effectivement, c'est facile. Mais cet officier d'état civil vous reconvoque pour une session jury, c'est ce qu'ils appellent ça, où vous avez 4 fonctionnaires de mairie, et puis là on vous explique que la discrimination, ça n'existe pas vraiment, mais oui, on en a entendu parler, etc. Et puis on met votre dossier à trappe, ça part chez le procureur, et puis là c'est parti, hein, donc avocat, etc. Et puis ça dure le temps que ça dure. Mais à la fin, vous avez quand même, après avoir dépensé beaucoup d'argent et du temps, vous vous retrouvez enfin avec une juge d'affaires familiales, puisque c'est elle qui traite au final le dossier, à un jugement qui vous autorise à changer de prénom. Mais ensuite, une fois que tout ça est fait, il faut penser, là je donne comme témoignage, que derrière il y a tout le boulot de changement de l'état civil, ça va du téléphone, la carte d'identité, etc.
C'est un cas exceptionnel, Baptiste Coulmont, pardonnez-moi de vous interrompre Marc, c'est compliqué là le cas de Marc.
Oui, c'est compliqué parce que la loi est récente, elle est jeune, les officiers d'état civil, ils disent oh là là, c'est quelque chose d'important. Et puis, mais ce qu'ils soulignent, c'est que changer de prénom et avoir l'autorisation d'en changer, c'est que le début d'un long travail. Mmh. Parce qu'il faut changer toute son histoire de papier pour pouvoir faire preuve qu'on est bien cette personne. Imaginez, vous aviez des biens immobiliers, des diplômes, etc. C'est un très gros travail.
Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui, Marc, avec ce nouveau prénom?
Ben, c'est comme si j'étais un nouveau citoyen.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Marc. Merci beaucoup, Anne-Laure Cellier. La science des prénoms est publiée chez Léopold. Merci, Julie Milbain. Le guide des prénoms 2022 est publié chez Solar. Stéphanie Rapoport, merci. L'officiel des prénoms, c'est chez First. Et merci, Baptiste Coulmont. La sociologie des prénoms, la troisième édition, c'est à la découverte. Demain, grand bien vous fasse, loisir.